Bonjour à vous. Je vous propose de prier avant de rentrer dans ce temps de prédication. Merci Seigneur encore pour la majesté, la grandeur et la gloire de Christ. Merci encore pour tous ces passages qui nous ramènent à ce Christ souverain et Seigneur qui règne dans nos vies. Merci parce que nous avons encore l'occasion de nous plonger dans ta parole et d'y voir encore plus clair. Et Seigneur, donne-nous d'être enseignés, d'être réformés, d'être transformés, Seigneur, pour ressembler de plus en plus à l'image de Christ. Seigneur, aide-nous à mieux comprendre ces choses de la parole, afin de vivre comme tu veux. Édifie-nous encore, individuellement en tant qu'Église, et Seigneur, fais-nous avancer vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, on va continuer sur 1 Corinthiens et le chapitre 12, donc dans la série qu'on regarde depuis septembre de l'année dernière. Et on va rentrer dans une nouvelle section qui démarre du chapitre 12 au chapitre 14 et qui va parler d'une réalité qui est pour nous vraie, la réalité de l'esprit et de comment cet esprit se manifeste en nous. Et juste pour rappel, un des enjeux majeurs du livre des Corinthiens, c'est l'unité de l'Église. Et à travers ce texte qu'on va lire ce matin, Paul va encore nous enseigner sur l'unité. Il va reprendre les Corinthiens sur des choses qu'ils font mal et leur enseigner la vérité afin qu'ils vivent comme il veut. Le chapitre 12 qu'on commence parle clairement de dons spirituels et dès le verset 1, mais je veux juste faire un préambule, c'est que ce matin, même si ce texte s'y prête, ce ne sera pas un exposé théologique, tout simplement parce que ce n'est pas le but d'une prédication, et encore plus important, parce que je n'en suis pas capable. Ce n'est pas aussi une critique des pratiques dans d'autres églises, au sujet de l'esprit ou de la manifestation de l'esprit, et en fait, plutôt un regard sur nous-mêmes, sur comment nous vivons les réalités de l'esprit, et comment nous vivons cela dans l'église. Et je veux juste faire un premier constat avant de rentrer vraiment dans le texte, et juste une première affirmation, vraiment de ma part. La réalité de l'Église est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne sais pas si vous le partagez avec moi. Je ne sais pas quelle est votre expérience ce matin, mais vous arrivez, et dès que vous franchez les portes de ce bâtiment, des frères vous accueillent chaleureusement. La salle est propre, en ordre, tout est bien comme il faut, parce que des gens se sont adonnés à faire du ménage pour que nous asseyions sur des bancs propres dans une salle vraiment disposée à louer le Seigneur. Une présidence a été préparée avec des textes choisis à soin, des chants, pour nous montrer encore la grandeur de Christ. Les musiciens ont préparé ces chants, nous ont conduits dans une louange. L'équipe technique a projeté ces chants, suivi le son, afin que ce soit harmonieux et qu'on puisse tous s'entendre et entendre la musique. La table a été préparée pour la Sainte Cène par des gens qu'on n'a pas vus, mais afin qu'on prenne ce repas en reconnaissance du sacrifice de Christ. Une prédication aussi biblique et centrée sur Christ est préparée, en tout cas c'est ma prière jusqu'ici. Et pendant que vous suivrez cette prédication, vos enfants seront eux enseignés, gardés, par des gens qui se sont dévoués à ce service. Et à la fin, en bonus, vous avez même droit à une tasse de café, un jus de fruits et même un petit gâteau pour continuer les discussions. Et je le dis parce que c'est une réalité qu'on ne voit pas ailleurs. Et toutes ces personnes qui ont mis ces choses en œuvre sont quasi exclusivement bénévoles, pas rémunérées pour ce qu'elles font, et elles le font gracieusement. Et en fait, ça va au-delà du dimanche. Pendant la semaine, des gens veillent sur ce bâtiment, l'entretiennent. Des gens veillent spirituellement sur nous, les responsables d'église, des gens s'occupent de l'administratif, de la trésorerie et de plein d'autres choses. Et j'imagine qu'à ce stade, vous êtes d'accord avec moi que la réalité de l'église est belle. Et si c'est le cas, je veux juste vous poser la question de où vous, personnellement, vous vous situez dans cette réalité de l'église. Est-ce que vous êtes de ceux qui servent? Si c'est le cas, merci, et merci Seigneur, pour vos compétences, vos dons qu'il vous accorde, Et j'espère que vous êtes satisfait de ce que vous faites et que vous êtes reconnaissant à la place où vous êtes, malgré les défis. Ou peut-être que vous êtes de ceux qui ne servent pas, qui sont uniquement servis. Et là, ma question, c'est vos compétences, vos dons, à quoi servent-ils ? Le texte qu'on va lire ce matin nous parle exactement de cette réalité, des dons mis au service des uns des autres. Et je vous propose qu'on lise 1 Corinthiens au chapitre 12, les versets 1 à 11. Donc 1 Corinthiens au chapitre 12, les versets 1 à 11. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers des idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Le verset 1 donne le ton. Paul affirme, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Pour lui, ce qu'il va dire et ce qui suit est d'une importance capitale. Important pour les Corinthiens, vérité centrale de la Bible, quelque chose pour corriger leur manière de faire. Et en fait, pour comprendre l'importance de ça, il faut revenir un petit peu au contexte spécifique de cette section de passage. Et les Corinthiens, comme dans la société actuelle, aimaient tout ce qui était très visible, tout ce qui était très impressionnant. Et en fait, au chapitre 3 et 4, déjà, on avait vu qu'ils aimaient des responsables avec de l'éloquence, de la prestance, du charisme, de la stature. Et en fait, Paul, il le méprisait un peu parce qu'il n'avait pas cette prestance et cette éloquence. Et ici, le problème est le même. Parmi eux, il y avait une recherche effrénée de dons spirituels qui étaient des preuves d'une grande spiritualité. La présence du Saint-Esprit, même pour eux, était manifestée par la présence de ces esprits-là. Et en simplifiant, il y avait deux groupes. Il y avait ceux qui possédaient ou qui recherchaient les super-dons et ceux qui avaient des dons ordinaires. Il y avait donc ceux qui étaient supérieurs parce qu'ils possédaient de super-dons et il y avait les autres qui étaient inférieurs. Il y avait des personnes alors qui étaient très spirituelles et des personnes qui étaient non spirituelles. Pas du tout, parce qu'elle possédait des dons mineurs. Et ceux qui ont l'esprit et qui se manifestent, et à côté, ceux qui n'ont pas l'esprit, parce qu'ils n'ont pas de super dons. Et donc là encore, encore une fois, une volonté ou une preuve de la division des Corinthiens. Et voici comment une bonne chose, qui est un don spirituel, qui est quelque chose que Dieu veut, peut se transformer en quelque chose de dangereux, de négatif, de toxique au milieu de l'Église. Et Paul va commencer à y répondre directement par les trois premiers versets qu'on a lus de ce passage, en leur donnant le bon critère qui permet de définir celui qui a l'esprit de celui qui n'a pas l'esprit. Et c'est mon premier point, les versets 1 à 3. Jésus est Seigneur, critère de distinction de ceux qui ont l'esprit. Jésus est Seigneur, critère de distinction de ceux qui ont l'esprit. Et la réponse de Paul, elle est au verset 3. Assez direct. C'est pourquoi, donc pourquoi par rapport à cette vérité importante qu'il ne veut pas que les Corinthiens ignorent, c'est pourquoi je vous le déclare, personne s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est maudit » et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit. Paul Le critère est simple. Jésus est Seigneur. Voici le critère. C'est lui qui permet de distinguer si quelqu'un a l'esprit ou si quelqu'un n'a pas l'esprit. Et en fait, il le dit comme ça. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire « Jésus est maudit ». Ou « Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » s'il n'a pas le Saint-Esprit ». Et là aussi, Paul montre deux groupes clairs. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, alors on est capable de dire « Jésus est maudit ». Et en lisant la première fois ce passage, je me suis dit « choquant ». Choquant de lire au milieu de la Bible une affirmation comme ça, alors même si on comprend le contexte, mais de lire « Jésus est maudit ». Et on peut le comprendre un peu comme un résumé de tout ce qui est la fausse théologie ou toute la fausse, le faux enseignement à propos de Jésus. Mais alors, si on n'a pas l'esprit, on est capable d'affirmer ces choses-là. Et au contraire, si on a l'esprit, on est capable de dire « Jésus est le Seigneur ». Et on voit que si on est capable de dire « Jésus est maudit », c'est parce qu'on a une influence autre que le Saint-Esprit. En fait, une influence qui vient très certainement du diable et des choses que le diable pratique, mais pas quelque chose qui vient du Dieu, qui est l'Esprit de Dieu en nous et qui nous permet de connaître qui est le Seigneur et de l'exalter. Impossible de connaître la vérité si on n'a pas le Saint-Esprit. Et pourtant, si on a le Saint-Esprit, comme Jean 15, 26 nous le dit, il nous rend témoignage de qui est Jésus. Et là encore, claire distinction de ces deux groupes. Je le redis, pour moi, Jésus est maudit, affirmation choquante. Mais en fait, on peut bien la comprendre en la renversant, en affirmant Jésus est le Seigneur, et si on n'est pas de Dieu, c'est aussi choquant. Et si on y réfléchit dans le contexte pour des Juifs, à l'époque de Paul ou aujourd'hui, affirmer que Jésus est Seigneur, c'est un blasphème. L'Éternel seul est Dieu, la phrase des Juifs. Et pourtant, Paul insiste ici, Jésus est le Seigneur. Tout comme pour des païens, comme Paul le rappelle au verset 2, qui étaient attirés par des idoles, ben, eux non plus ne diront pas Jésus est Seigneur, parce qu'ils ont d'autres dieux qu'ils vénèrent. Ils ont Bouddha, Brahma, Allah, que sais-je, mais certainement pas Jésus. Et en pratique, on voit que cette simple affirmation distingue qui croit en Dieu de qui ne croit pas en Dieu. Et en fait, un événement récent de l'actualité m'a fait un peu réfléchir là-dessus. Vous avez tous entendu que le pape François est décédé, qu'il y a eu le conclave, et que le nouveau pape, Léon XIV, a été désigné par les évêques. Et un terme revenait sans cesse dans l'actualité, et au fait, on entend et qui devient usuel, le terme « souverain pontife ». C'est quelque chose qui est dit naturellement pour désigner le pape. Et en fait, en comprenant bien ce que ça veut dire « souverain pontife », là aussi, c'est une affirmation claire et théologique. « Pontife » vient de « pontifex » en latin, qui veut dire « quelqu'un qui fait pont ou qui est le médiateur ». Et en fait, le souverain pontife, donc, par excellence, c'est le médiateur par excellence entre Dieu et les hommes, le pape alors. Choquant pour nous, n'est-ce pas? Terrifiant d'entendre qu'un homme serait mis à la place du pape comme médiateur entre Dieu et les hommes. Eh bien, si on n'a pas l'esprit, on est incapable de discerner ces choses-là et de comprendre que appeler le pape souverain pontife, c'est faire offense à Jésus, qui est le médiateur par excellence, le seul chemin, la vérité, la vie, le seul accès au Père. Oui, affirmer Jésus est Seigneur, ce n'est pas juste une phrase, juste une pensée biblique, une vérité biblique ou un concept intellectuel. En fait, c'est une marque de notre allégeance à Christ. C'est reconnaître Christ comme le seul Sauveur, le seul sauveur de notre âme, comme le Dieu, le Christ, celui qui avait été promis. Et la preuve ultime de la présence de l'Esprit en nous, c'est qu'on est capable de reconnaître que Jésus est le Seigneur. Seule l'action de l'Esprit en nous nous le révèle et nous permet de confesser que Jésus, celui qui a été crucifié et qui est ressuscité, est le Seigneur de tout l'univers. Et en fait, cette affirmation devient la base de tout ce qui va suivre dans le développement de ce que Paul dit, mais aussi la base pour nous. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Seigneur, il a l'Esprit de Dieu en lui, il est capable de dire « Jésus est Seigneur », alors on sait qu'il est chrétien. Si cette personne n'est pas capable de le dire, c'est qu'elle est dans la catégorie de ceux qui disent « Jésus est maudit ». Et alors, claire distinction. Et là, Paul les a déjà repris en leur disant « Si vous pensiez que c'était la manifestation des dons de l'Esprit, un don spectaculaire qui vous permettait de distinguer qui est de Dieu et pas de Dieu, là, en fait, la distinction, elle est tout autre. Jésus est Seigneur est le seul critère. Au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. Si vous êtes capable d'affirmer Jésus est Seigneur, alors vous êtes de Dieu et vous avez son esprit en vous. Et donc, si quelqu'un est chrétien, oui, il a l'esprit de Dieu en lui. Et oui, il est capable d'affirmer son allégeance à Christ, d'une part, comme le seul Seigneur. Mais aussi, il reçoit des dons. Et ça, c'est la suite du passage. Et mon deuxième point, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, la diversité des dons pour l'utilité commune. La diversité des dons pour l'utilité commune. Et comme je le rappelais du contexte des Corinthiens, ils étaient fascinés par des dons qu'ils considéraient comme prestigieux et des signes d'une réelle spiritualité. Mais Paul va leur répondre qu'il y a une multitude de dons. Multitude de dons et que la diversité de ces dons est une richesse pour l'Église. En fait, rien de plus logique dans le fait que la multiplicité des dons est une richesse pour l'Église. Quand on y réfléchit et qu'on s'imagine un peu ce qu'on pourrait avoir si l'Église était remplie de personnes avec un seul et même don, en fait, ça deviendrait une situation curieuse, voire cocasse. Si le don de l'encouragement était le seul don qu'on possédait tous dans cette Église, en fait, personne ne serait capable alors de diriger. Personne ne serait capable d'organiser, personne ne serait capable d'enseigner. En fait, il n'y aurait que des gens qui encouragent. En fait, c'est une situation un peu bizarre. Et j'ai pris un autre exemple que j'avais entendu dans une histoire drôle. C'est un peu comme une équipe de foot où il y aurait 11 gardiens de but. Alors, génial, on ne prend pas de but parce qu'on en a 11, mais on n'en marquera jamais. Et ça ne peut pas fonctionner. Ou une image encore plus bizarre et plus glauque, si on prend l'image du corps humain, ça ressemblera à un corps où il n'y a que des pieds gauches. Pas de jambes, pas de bras, pas de tronc, pas de tête, que des pieds gauches. En fait, c'est vraiment bizarre de juste imaginer ce fait. Mais ça ressemble à ça, de vouloir le même don ou de penser que toute une église pourrait avoir le même don. Et en fait, Paul dit non. Il y a multiplicité de dons, divers et variés. Et en fait, cette diversité, elle est quasiment reconnue comme quelque chose de bon dans plusieurs autres domaines, dans la nature, dans la société, dans la science. Il est important d'avoir de la diversité. Et en fait, de mon point de vue ici, c'est même ce que je vois de cette Église. Diversité de personnes, d'origine, d'arrière-plan, d'histoire. Et en fait, c'est exactement ce que le Seigneur a voulu. Faire de toutes les nations ses disciples. Appeler des gens de toute ethnie, de toute origine, de tout peuple, de tout parcours, de toute histoire, tous pécheurs, mais réunis sous sa gouvernance à lui, parce qu'il les sauve. Et c'est ça l'Église. C'est la réalité de l'Église qui exige la diversité. Cette réalité, en fait, elle constitue presque une garantie qu'on ne devient pas des gens uniformes, semblables, avec les mêmes codes, les mêmes manières de fonctionner, la même origine et la même manière de vivre. Et ça, en fait, c'est une secte. Si on est tous comme ça, on ressemble à un culte sectaire derrière un gourou. Mais en fait, Dieu veut la diversité de son Église, riche de tous et de tout parcours, tout comme il veut la diversité des dons. Et c'est ce qu'il donne. Et l'exemple que Paul utilise, c'est la Trinité elle-même. Et au verset 4, on peut le lire. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et là, Paul avance son argument. Il faut de la diversité dans les dons parce que c'est la nature même du Dieu trinitaire. Trois personnes, de caractères distincts, de rôles particuliers, mais qui agissent de concert pour un seul et même but, avec un lien indestructible d'amour. Et comme dans le verset 4, les dons sont aussi multiples, divers et variés, mais ils ont pour source le même esprit, l'Esprit de Dieu. Et le verset 7 vient compléter tout ça, cette nécessité de diversité dans l'unité. Parce que le verset 7 dit, en gros, « Tous reçoivent la manifestation de l'Esprit. » Et cette manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. C'est une belle image, une seule source qui donne des dons multiples à toute l'Église, chacun en particulier, ces dons au service des uns et des autres, pour l'unité et le service des uns et des autres, et pour l'unité du Christ lui-même. Vraie belle image de ce que l'Église représente. Et tout ici, dans toute cette section des versets 4 à 7, est fait pour insister sur le fait que ce qui compte, ce n'est pas la personne qui reçoit le don, mais c'est celle qui fait le don et qui l'accomplit. Et c'est pour ça qu'au verset 4, il va faire mention de dons, et même dans l'original, de dons de la grâce, pour signifier que ce sont des cadeaux, pas des choses qu'on a travaillées pour avoir, qu'on a méritées, qu'on a recueillies ou qu'on a développées nous-mêmes. Non, des cadeaux de la part de l'Esprit. Au verset 6, c'est Dieu lui-même qui accomplit tout en tous. Et encore au verset 7, c'est lui qui donne pour l'utilité commune. Tout pour nous rappeler que si, comme les Corinthiens, on voulait avoir cette tendance à se dire « j'ai un don prestigieux, je suis devant, je représente », non. Le plus important dans le don, c'est qui le donne, comment tu l'emploies, c'est-à-dire au service des frères et des sœurs, et pour quel but ? L'unité. Et par définition même, le mot « don » le dit. Ça ne peut pas être quelque chose qu'on a généré nous-mêmes. C'est forcément quelque chose qui vient d'ailleurs et pas de nous. Et c'est cela les manifestations de l'Esprit de Dieu, encore une fois, pour le bien des autres. Et si nous avons un don, et forcément étant convertis, ayant reçu le Saint-Esprit, nous avons un don, nous devons le mettre au service de l'Église, c'est-à-dire des frères et sœurs autour de nous. Et il ne peut pas y avoir, encore une fois, de fierté mal placée. Aucun d'entre nous n'a travaillé pour ces dons. Cela nous est donné et tout le mérite revient à l'Esprit. En résumé, tous les dons de la grâce proviennent de l'Esprit et ils forment une unité car ils ont la même source, l'Esprit, avec un même objectif, le bien commun et dans la diversité comme elle l'est à l'intérieur de la Trinité. Et ça, c'est le programme que Paul leur explique. Il n'y a pas de recherche de dons personnels et égocentriques, non. Le don vous est attribué pour le bien des frères et sœurs, pour l'unité et pour le service de Dieu. Et en fait, dans cette dernière partie, des versets 8 à 11, on va voir quelques exemples que Paul cite de dons spirituels ou de manifestations de l'Esprit pour montrer un peu à quoi ça ressemble, mais aussi les avertir sur qu'est-ce qu'on doit en faire. Et donc on va passer à cette troisième partie, et dernière partie, versets 8 à 11. C'est l'Esprit qui distribue souverainement les dons à chacun. C'est l'Esprit qui distribue souverainement les dons à chacun. Et là aussi, je veux encore faire un préambule. Il y a une liste intéressante de dons et je ne m'attacherai pas à savoir est-ce que ces dons sont encore d'actualité aujourd'hui ou pas. Est-ce que vous avez ou pas des dons dans cette liste ? Je ne sais pas. Encore une fois, je veux nous interroger, nous, par rapport à notre rapport à ces dons. Si on en a, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais je propose de regarder la liste que Paul donne et qui fait vraiment suite au verset 7 où il montre que c'est pour le bien commun. Et donc à l'un est donné l'esprit, par l'esprit une parole de sagesse au verset 8, à un autre, selon le même esprit, une parole de connaissance, à un autre la foi. On pourrait définir ça comme une foi particulière parce qu'on a toute la foi, tous de la foi, mais une foi particulière et qui est vraiment puissante dans les circonstances. Et on en parle dans le chapitre 13 au verset 2 de 1 Corinthiens. À un autre des dons de guérison, par l'unique esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre la prophétie ou la capacité de prophétiser, à un autre le discernement des esprits, l'expression dans les langues inconnues ou le fait d'interpréter ces langues. Et on voit que c'est une liste pas forcément exhaustive, mais pour montrer un peu la diversité des dons qu'il peut y avoir. Et en fait, il y a d'autres listes qui sont dans d'autres passages, dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, dans Romains 12, 6, 8. Et on voit que quelquefois, ces listes diffèrent. Mais justement parce que Paul n'est pas en train d'établir une liste définie de dons qu'on devrait avoir, mais il est en train de montrer des exemples de la diversité exprimée de ces dons. Il renforce encore le principe de l'unité en montrant que tous ces dons proviennent du même esprit. Par l'esprit, par le même esprit. Et il le répète sans cesse au verset 8 et 9. Et au verset 11, pour rajouter encore, Paul va dire, et je lis, « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit. On les distribue à chacun, en particulier, comme il le veut. » Et renforce encore l'idée d'une seule source, même s'il y a des dons divers, mais pour l'utilité de tous. Tout le mérite, et on le voit bien, ne peut pas nous être attribué en ayant un don. Tout le mérite revient à celui qui nous le donne, à l'Esprit. Et je veux qu'on, dans cette partie où Paul liste des dons, qu'on regarde de façon un peu plus pratique, nous, notre rapport à ces dons spirituels. Et on pourrait se poser quelques questions. Est-ce que, comme les Corinthiens, est-ce qu'on est insatisfait des dons qu'on a reçus? Est-ce que, par exemple, on a un don et on se dit, moi, j'aimerais avoir autre chose. J'aimerais avoir la guérison. J'aimerais avoir le discernement des esprits plutôt que le don de l'accueil, en fait, qui n'est peut-être pas très glorieux. Et en fait, question qui suit celle-là, est-ce que nous savons nos dons? Parce que finalement, si on ne les sait pas, on ne pourra jamais les mettre en œuvre. Si nous savons notre ou nos dons, est-ce qu'on les met au service des frères et sœurs? Et je complète, comme je le disais en introduction, est-ce que nous sommes actifs dans l'Église ou est-ce que nous sommes plutôt passifs, spectateurs, consommateurs? Et en fait, quel regard nous avons sur les dons des autres? Et dans cette dernière partie, je veux qu'on regarde à quelques pistes pour nous aider à nous positionner face à cette question des dons. Tout d'abord, je pense que la première, ce serait avoir de la reconnaissance et de l'humilité. De la reconnaissance parce que c'est le Seigneur qui nous attribue des dons et il les attribue à chacun. Personne n'est défavorisé. Tout le monde en reçoit un. Et il n'était pas obligé de le faire. Mais il le fait pour notre bien à tous, pour le service de l'Église. Mais il faut reconnaître que dans la société dans laquelle on vit, on fait quand même des catégories dans les choses qu'on vit. Quelqu'un qui fait du ménage dans une maison ou dans un collège n'aura pas la même prestance ou la même reconnaissance que quelqu'un qui est docteur ou architecte. Et en fait, on le voit qu'il y a deux poids, deux mesures. Tous ces métiers sont importants, utiles au fonctionnement de la société, mais le regard qu'on a envers ces métiers, il va être différent. Et là, on a besoin d'être repris pour qu'on regarde en fait tous les dons à la même valeur, parce qu'ils ont tous leur utilité. Certains sont plus visibles, d'autres le sont moins, certains sont probablement plus prestigieux, parce qu'ils touchent plus de monde, mais ils ne sont pas plus importants que les autres. Tous les dons ont leur valeur. Et humilité, parce que si on a un don qu'on considère prestigieux, ce n'est pas nous qui l'avons trouvé ou travaillé pour, encore une fois, c'est l'Esprit qui nous le donne. Et dans cette démarche de reconnaissance et d'humilité, on devrait avoir un regard différent de la société et différent de ce que les Corinthiens faisaient. Les dons spirituels ne sont pas un moyen de faire de l'ascension sociale dans l'Église ou d'être vu de façon un peu plus importante dans l'Église alors qu'on est considéré comme quelqu'un qui n'a pas vraiment de talent ou des choses exceptionnelles à partager. Non. On devrait tous se regarder comme des bénéficiaires de la grâce de Dieu, des bénéficiaires du salut en Christ, et des gens qui reçoivent tous des dons, et des gens qui sont tous au service, et des gens qui sont tous au bénéfice. Pas autre chose. Pas de personne supérieure, ni moi qui parle devant, ni de personne inférieure. Non. Les dons sont distribués souverainement par l'Esprit, comme il le souhaite, à chacun. Et donc, ni jalousie, ni convoitise de dons des autres, mais plutôt de la reconnaissance, encore une fois, et de l'humilité dans l'exercice de ces dons. La deuxième chose, c'est de l'encouragement. J'ai cité toutes ces personnes qui sont au service dans l'Église pour que nous puissions jouir d'un culte paisible, heureux, dans la reconnaissance du Seigneur. Eh bien, toutes ces personnes méritent un encouragement pour ce qu'elles font, un merci, un continue, persévère. Parce que le service peut parfois être quelque chose qui isole, qui cloisonne quelque part, et quelque chose qu'on vit comme une souffrance ou une pénibilité, parce que le service peut être dur. Et on a besoin des uns des autres pour s'encourager à persévérer dans ce service, même si ce n'est pas un service qu'on souhaitait, mais c'est le don que Dieu nous donne, et à le faire de façon obéissante et fidèle. Encourageons-nous, à la fois ceux qui ont des dons reconnus, ceux qui commencent à exercer leurs dons, encourageons-nous. On peut aller voir nos frères qui font la musique et leur dire « merci, continue, persévère », plutôt que d'être dans un esprit de critique à chaque fois et de dire « pas assez bien, pas assez fort, pas assez en rythme ». Prédication un peu moyenne aujourd'hui. Et toujours en train de juger et de découper les autres. Non, on devrait avoir un esprit d'encouragement parce que ces dons sont pour notre bénéfice à nous, à chacun. Et une troisième piste aussi, c'est la recherche de ces dons, et je pense que c'est important, et sa mise au service de l'Église. Finalement, c'est une position assez confortable de dire « je ne sais pas quel don j'ai, bah donc je ne sers pas, et j'attends. Dieu me le révélera un jour, mais en attendant, je suis assis, je profite du don des autres. » Non. On devrait être dans une démarche un peu plus active et chercher ces dons. Et c'est quelque chose qui est collectif, parce qu'on vit les uns avec les autres et on se voit vivre. Mais c'est aussi quelque chose de personnel et d'individuel qu'on peut rechercher. Et Christian Schwartz, qui a écrit un livre sur les dons, « Découvrez vos dons », donne quelques pistes pour faire cette recherche. Il propose premièrement de prier pour avoir de l'éclairage. Et c'est la première vraie piste. S'interroger, demander au Seigneur, « Montre-moi, montre-moi où je peux être utile, ou qu'est-ce que je peux utiliser à ton service. » Et la deuxième chose qu'il dit, tout de suite après, se rendre disponible. Finalement, on peut être quelqu'un qui a un don, qui n'est pas détecté, parce qu'on ne se rend jamais disponible pour l'exercer. On est toujours occupé à autre chose. Mais je le rappelle, ces dons nous sont donnés pour le service de l'Église, pas pour nos emplois respectifs, pas pour nos loisirs, pas pour notre profit personnel, mais pour les frères et sœurs qui sont assis à côté de nous. Et donc on doit se rendre disponible et donc être à l'Église, participer aux activités, pour être là et développer ses dons. Il faut apprendre et se former. C'est intéressant parce que sur cette question de dons, est-ce que c'est un caractère qu'on a déjà et qui est inné et qui se développe? Est-ce que c'est quelque chose de surnaturel que Dieu nous donne? Je ne sais pas. Mais apprendre et se former est un bon moyen de détecter ce qu'on a comme compétence particulière. Parce qu'on est en train soit d'étudier la parole, soit d'apprendre à organiser une église, d'apprendre l'administratif, d'apprendre un métier pratique. Et alors, on voit si c'est quelque chose qui correspond à notre façon de travailler, à nos dons particuliers ou à nos aspirations. Aussi, faire des essais. Et c'est quelque chose qu'on fait dans le monde. Un emploi, il y a une période d'essai. Si ça ne va pas, ben, on se serre la main et chacun part de son côté. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Mais quand même, essayer, c'est aussi une bonne manière de voir si on est capable. Et très longtemps de ma place dans la salle ici, je considérais que la prédication était un exercice simple. Et j'étais assez critique sur ceux qui le faisaient. Et la première fois que j'ai dû le faire, je me suis rendu compte de l'Himalaya qui était devant moi et que je n'ai jamais réussi à gravir jusqu'ici. Et en fait, essayer peut vite dire « ce n'est pas pour toi, parce que tu n'auras jamais la patience. » Ou alors « j'aime vraiment, mais je ne sais pas encore le faire. » Et alors apprendre. Et aussi de la tolérance des autres pour ceux qui essaient. Plutôt que, encore une fois, de les juger, de les découper au moindre défaut, au moindre faux pas, à la moindre erreur, leur laisser l'opportunité de se tromper et de changer. Et là, je le dis, pour un âge plus avancé, comme pour les plus jeunes, laissons-leur la possibilité d'essayer. Une bonne manière aussi de vérifier si c'est notre don, c'est de vérifier son efficacité, dit Christian Schwartz. Parce que finalement, si notre don, c'est l'accueil, et qu'à chaque fois qu'on ouvre la porte, on fait peur à ceux qui rentrent, c'est sûr que ce n'est pas notre don. On devrait aller faire autre chose. Et dernièrement, solliciter l'avis des autres, les responsables, les gens avec qui on parle, on prie. Tiens, est-ce que tu penses que ce serait mon don? Et lui peut te dire en toute honnêteté, ou elle, je ne pense pas. Je ne pense pas que tu sois assez patient pour ça. Et souvent avec ma femme, je lui dis, j'aimerais bien faire ce métier. Et elle me regarde et elle me dit, certainement pas. Je te connais dans le détail et je sais que tu seras impossible. Mais c'est un bon retour de savoir des gens proches de nous l'idée qu'ils ont de ce qu'on peut faire. Mais de façon pratique, là en revenant à nous ici, si on veut servir, il y a quand même un élément qui aide, c'est de devenir membre de l'Église. C'est vrai que c'est une chose administrative, mais qui est essentielle. Parce qu'alors, on est sous la responsabilité réelle des anciens, ils nous connaissent, ils nous attribuent quelque chose, et alors on est au service. Mais en restant éloigné de cette notion de membre, on se met déjà une première barrière au service. Et je vous encourage, si vous êtes dans l'Église depuis un moment et que vous n'avez jamais fait cette démarche, allez voir les responsables et cherchez à devenir membre. Pour finir, je reviens juste au début du passage et aux critères que Paul redonne, Jésus est Seigneur. C'est la bonne manière de nous évaluer nous-mêmes et de savoir où on en est et de savoir où les autres en sont. C'est un bon moyen de savoir si nous avons compris le message de l'Évangile et si l'Esprit continue à travailler en nous. Mais aussi, si vous êtes chrétien, ça signifie que vous êtes équipé du Saint-Esprit et alors que vous êtes prêt pour le ministère. Si vous y croyez, et c'est une vraie question que je vous pose, si vous y croyez, alors au service. Il n'y a plus rien à attendre, il faut se lancer. On ne doit pas être une église qui ressemble à une salle de spectacle où on vient, on achète son ticket, on consomme, et si ce n'est pas bon, on jette des tomates et on s'en va, ou on ne revient plus. Non, l'église, c'est les frères et sœurs qui agissent dans l'intérêt de tous. Mais aussi et surtout, on doit reconnaître le rôle principal du Saint-Esprit. Il est celui, il y a un livre que j'ai vu et qui s'appelle « Un Dieu oublié », alors le contenu est un peu discutable, mais le titre du livre est intéressant parce que c'est la personne de la Trinité qu'on ne visualise pas et qu'on oublie quelquefois. Mais on doit être reconnaissant à l'Esprit pour son travail en nous, pour le don qu'il nous accorde et pour le service qu'il nous permet de faire, et aussi pour tous les bénéfices des dons des uns et des autres qui nous permettent de nous édifier. Et le mot-clé est vraiment l'édification de l'Église. Si notre don ne sert pas à édifier l'Église, comme les Corinthiens, il sert à la diviser et alors à la détruire. Et donc, oui, la diversité de dons, mais important de conserver l'unité comme l'Esprit et comme la Trinité. Et je suis reconnaissant de la lecture d'Éphésiens 1, les versets 13 et 14, que Christelle a lu tout à l'heure. On est scellé en Christ avec une espérance. Et ça, c'est la vérité qui ne bouge pas. Ce n'est pas une question de performance, d'assiduité au service. C'est une garantie. Le sceau de l'Esprit est là et notre avenir est garanti en Christ. Et je veux juste lire 1 Pierre 4, les versets 10 et 11 pour terminer. 1 Pierre chapitre 4, les versets 10 et 11. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez-vous chacun au service des autres. Le don que vous avez reçu, Si quelqu'un parle, qu'il annonce des paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec force, avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci pour sa clarté, sa vérité, sa simplicité, le fait qu'elle soit accessible à chacun d'entre nous. Merci pour l'Esprit, qui est le sceau et la garantie que nous sommes sauvés, que nous appartenons au Père. Merci pour la possibilité de bénéficier des dons, chacun d'entre nous, et d'être au bénéfice des dons des autres dans leur exercice. Seigneur, donne-nous de détecter nos dons les uns les autres, et surtout de les mettre au service des frères et sœurs, dans un souci d'édification, d'unité, mais comme ce passage vient de nous le dire, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.